Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Qui de vous me convaincra de péché? Jésus peut prononcer ces paroles, lui qui est la justice et l'innocence même. Mais nous devons dire plutôt avec saint Jean, si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Nous sommes tous pécheurs, et généralement nous n'avons pas de problème à le reconnaître, mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de regretter vraiment nos péchés, comme il faut. Pourtant, rien n'est plus nécessaire pour notre vie spirituelle et pour l'efficacité, voire même la validité de nos confessions. En ce dimanche où nous entrons dans le saint temps de la Passion, le temps de l'année où l'Église nous fait contempler plus particulièrement ce que Jésus a souffert à cause de nos péchés, voyons ce qu'est la vraie contrition et quelles doivent être ses qualités. D'après le Concile de Trente, la contrition est une douleur de l'âme et la haine des péchés qu'on a commis avec le ferme propos de ne plus pécher à l'avenir. Voyons d'abord la première partie de cette définition, une douleur de l'âme et la haine des péchés que nous avons commis. Une douleur de l'âme, c'est-à-dire un repentir, une peine, et non seulement la connaissance froide de nos péchés. Judas et Saint-Pierre ont tous les deux reconnu leur péché, mais seul Saint-Pierre en a pleuré. Et c'est ça qui a fait toute la différence entre un damné et un des plus grands saints de l'Église. Cette douleur est le regret intime, un chagrin profond d'avoir offensé un Dieu si bon. Et puis c'est la haine des péchés que nous avons commis. C'est détester pas seulement le péché en général, mais nos péchés, les péchés que nous avons commis. Ainsi, la contrition est tout d'abord une haine de nos fautes qui provoque dans notre âme une douleur de les avoir commises. Mais quelles doivent être les qualités de cette douleur du passé? Il y en a quatre. Elle doit être intérieure, surnaturelle, universelle et souveraine. Donc d'abord, elle doit être intérieure, c'est-à-dire dans notre volonté, et non pas forcément dans notre sensibilité extérieure. Nous avons péché dans notre volonté, par notre volonté. Donc le remède doit être appliqué là même où est la plaie. Et comme le dit notre Seigneur, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les homicides, les adultères, les vols. Un acte de contrition extérieure de bouche, même accompagné de larmes, ne peut tromper Dieu qui voit le fond des cœurs. Nous avons un exemple de cette fausse douleur, cette fausse contrition dans Saül, le premier roi des Israélites, qui avait désobéi à Dieu en épargnant des païens qu'il devait massacrer. Et quand le prophète Samuel le lui reprocha, il a donné beaucoup de manifestations extérieures d'un repentir. Il criait « j'ai péché », puis il tenait le manteau de Samuel pour le supplier de revenir avec lui. Mais c'était du théâtre, c'était pas dans le cœur. Et Dieu n'est pas dupe, et la punition de Saül est arrivée, ça n'a pas tardé. Il est mort misérablement, suicidé. Donc cette contrition intérieure est une condition exigeante, certes, mais c'est aussi consolante. Parce que si nous n'arrivons pas à éprouver une douleur sensible, verser des larmes, etc., Cela ne veut pas dire que notre contrition n'est pas véritable, si c'est vraiment un acte de volonté. Alors cette contrition intérieure doit aussi, deuxièmement, être surnaturelle. Surnaturelle dans son principe, c'est-à-dire dans sa source, elle doit venir de Dieu. Saint Léonard de Port-Maurice disait que la vraie contrition est une plante qui ne croît pas dans notre jardin. Elle doit nous venir du ciel. Donc, il faut la demander dans la prière et à la communion. Cette contrition doit être surnaturelle aussi dans ses motifs. Il y a beaucoup de motifs naturels pour regretter nos péchés, donc la honte, les mauvais effets sur notre santé, la perte de notre bonne réputation, la perte de la confiance des gens, ou des punitions ou d'autres ennuis. Mais tous ces motifs naturels ne sont pas suffisants pour rendre notre contrition bonne et efficace. Si notre contrition est motivée par l'amour surnaturel de Dieu, sans retour sur nous-mêmes, c'est la contrition parfaite et elle nous réconcilie avec Dieu par elle-même et tout de suite, pourvu qu'on ait l'intention de se confesser dès qu'on peut. Si notre contrition est motivée par la crainte des châtiments surnaturels, c'est la contrition imparfaite. Et cette contrition-là ne peut nous réconcilier avec Dieu par elle-même, mais uniquement quand on reçoit l'absolution du prêtre dans le sacrement de pénitence. C'est à ce moment-là où cette contrition imparfaite devient parfaite. Alors, la contrition intérieure et surnaturelle doit être troisièmement universelle, c'est-à-dire s'étendre sur tous nos péchés, au moins tous nos péchés mortels, sans aucune exception. Quand nous entrons dans le domaine surnaturel, en quelque sorte, c'est tout ou rien. La charité surnaturelle doit s'étendre à tous les hommes. Si on aime Dieu et tous les hommes, sauf un seul, nous n'avons pas la charité surnaturelle. Nous n'avons pas la charité du tout. Et la foi surnaturelle doit s'étendre à tous les dogmes. Si on croit toutes les doctrines enseignées par l'Église, sauf une, on n'a pas la foi. Et pour la contrition, c'est pareil. Si le cœur reste attaché à un seul péché mortel, bien que détestant tous les autres, la contrition est fausse et illusoire. Une seule faute mortelle nous sépare de Dieu. Et nous ne pouvons pas être à la fois unis et séparés, amis et ennemis, innocents et coupables. Un soldat a entretenu des intelligences secrètes avec plusieurs ennemis de son pays. S'il y renonce, sauf à une, ne reste-t-il pas toujours traître? Et Saint Jacques dit, « Quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à faillir en un seul point, il est coupable de tous. » Donc une vraie contrition ne laisse aucun péché qu'elle ne déplore. La contrition intérieure, surnaturelle et universelle doit être aussi, quatrièmement, souveraine. C'est-à-dire, nous devons être plus affectés pour avoir outragé Dieu que de tous les maux qui peuvent nous arriver. Le regret doit être proportionné à l'injure. Et le péché est une injure infinie contre Dieu, qui doit être aimée au-dessus de toute chose. Mais ici encore, il ne s'agit pas d'une douleur forcément sensible. Généralement, on éprouve plus de douleurs sensibles quand on perd un être cher ou si notre maison a brûlé, etc., que devant la vue de nos péchés. Mais notre contrition sera d'autant plus vraie dans la mesure où nous sommes plus affectés d'avoir offensé Dieu que par des ennuis matériels qui peuvent nous arriver dans cette vie. Et il faut tendre dans notre volonté à cette contrition souveraine. Alors maintenant, la deuxième partie de la définition de la contrition, le ferme propos de ne plus pécher à l'avenir. C'est la résolution d'abandonner le péché et de commencer une vie nouvelle. Vade et iam amplius noli pecare, dit notre Seigneur à la femme adultère. Va et désormais ne pêche plus. Saint Léonard de Port-Maurice réprouve avec raison les prétendues résolutions de ces pénitents trompeurs qui, pendant toute leur vie, ne font que passer en véritable girouette du confessionnal au péché et du péché au confessionnal. Quelles sont les qualités nécessaires de ce ferme propos? Il doit être, c'est un peu au moins les deux premières sont un peu comme les conditions pour les qualités pour la contrition. Il doit être universel, sincère, ferme et efficace. Donc, universel, c'est-à-dire nous devons avoir la résolution de quitter tous nos péchés. Donc, c'est la suite logique de ce que nous disions sur la douleur et la haine de nos péchés. Deuxièmement, sincère. Alors là aussi, c'est un peu comme ce que nous disions sur la douleur et la haine de nos péchés. Ce ferme propos doit aussi être non seulement de bouche, mais dans notre cœur, dans notre volonté. Sans doute, notre expérience passée peut nous faire craindre des rechutes. Mais il ne faut pas confondre prévoir qu'on retombera et vouloir retomber. Évidemment, quelqu'un qui décidait de retomber n'a pas le ferme propos. Mais autre chose est le sentiment aigu de notre faiblesse, justifié par la malheureuse expérience de nos rechutes. Le père Chéri, dans la plaquette « L'art de se confesser », dit ceci. Dieu ne nous demande pas pour nous pardonner que nous soyons sûrs de ne pas retomber. Cette certitude ressemblerait fort à la présomption. Il nous demande d'avoir l'intention de faire ce qui est en nous avec l'appui promis de sa grâce pour éviter le péché à nouveau. Cette intention est-elle en nous? Alors, nous n'avons pas à redouter l'hypocrisie et l'insincérité. Alors, cette résolution universelle, sincère doit aussi, troisièmement, être ferme. Donc, c'est le ferme propos. Pas de velléité. Il ne faut pas nous borner à dire « je voudrais faire mieux, je tâcherai ». Non, il faut dire de tout son cœur, je vais le faire. Et puis, quatrième qualité de ce ferme propos, il doit être efficace. D'ailleurs, c'est le signe qu'on a les trois autres qualités. Hein. Efficace, c'est-à-dire il faut que nous prenions sérieusement les moyens soit de réparer les dommages que nous avons causés, si nous avons fait des péchés de médisance, alors il faut essayer de réparer cela en disant du bien de la personne ou en rectifiant nos propos auprès de ceux qui nous ont entendus, ou soit de prendre des moyens d'éviter telle occasion de péché, que ce soit l'oisiveté ou d'éviter de passer par la cuisine en dehors des heures du repas, de fixer une heure précise pour notre coucher. C'est aussi prendre sérieusement des moyens d'accomplir désormais correctement un devoir que nous avons peut-être négligé jusque-là, de nous fixer un emploi du temps pour notre travail scolaire, de nous fixer des priorités dans notre travail au bureau ou pour des tâches à la maison. C'est aussi prendre sérieusement des moyens de combattre vraiment notre défaut dominant. Si nous avons le défaut d'orgueil ou d'entêtement, on pourrait être décidé de temps en temps de ne pas parler de nous dans une conversation, de ne pas utiliser les mots « moi »,« je », de ne pas soutenir notre opinion. Voilà, donc il faut prendre des moyens pour que ça soit efficace. Et c'est pourquoi il faut prendre une résolution à chaque confession. Puis je cite de nouveau le Père Chéri, plutôt en paraphrasant. L'accusation doit se compléter par une résolution dont on confiera l'exécution au secours divin, mais que la volonté travaillera à tenir. Pour être efficace, il faut qu'elle soit précise sur tel ou tel péché à éviter, et non pas sur l'ensemble de nos péchés, ni même habituellement sur plusieurs de nos péchés. Mieux encore, on s'attachera à prévoir, d'après l'expérience passée, les occasions à éviter et prendre des résolutions appropriées. Agir ainsi, c'est être logique avec sa contrition, se prendre tel qu'on est, capable de succomber là où un autre resterait fort. Et puis cela nous aide beaucoup à tenir nos résolutions, de les soumettre de temps en temps à notre confesseur. Alors, pour finir, juste quelques mots pour comment acquérir cette contrition qui est intérieure, surnaturelle, universelle et souveraine. Et pour acquérir cette résolution ferme, sincère, universelle et efficace de ne plus pécher. Alors, nous l'avons dit, justement, il faut le demander d'abord à Dieu. C'est la première chose qu'il faut faire. La contrition n'est pas une plante qui pousse dans notre jardin. Il faut le demander pour que ça vienne de Dieu. Et pas demander 2, 3, 4 fois comme ça. Mais pourquoi pas, pendant ces 2 semaines du temps de la Passion, demander tous les jours cette grâce de la vraie contrition. Comme nous le ferions pour obtenir quelques avantages matériels, comme pour réussir un examen, ou trouver un travail, vendre notre maison, etc. Pourquoi pas faire une neuvaine en prenant l'oraison de la messe de Notre-Dame de la Compassion, ou la messe de la Compassion de Notre-Dame, que nous allons commémorer ce vendredi, ou l'oraison de la messe de Notre-Dame des Sept Douleurs, pour demander cette grâce tous les jours. Et puis, méditons sur la Passion de notre Seigneur. C'est vraiment le temps de l'année pour le faire. Considérez souvent ce que Jésus a souffert à cause de nos péchés est un moyen infaillible d'acquérir cette vraie contrition. Alors, est-ce que ça serait vraiment impossible d'ajouter, par exemple, 10 de chapelets par jour pour méditer un peu sur la Passion de notre Seigneur, méditer sur l'agonie au jardin ou la flagellation? Est-ce que 10 de plus par jour pour nous préparer à la fête de Pâques va nous empêcher d'accomplir notre devoir d'État? Sans doute pas. Donc soyons généreux, demandons cette grâce et cette générosité à la très sainte Vierge Marie, qui elle était au pied de la croix, qui a vu ce que Jésus a souffert à cause de nos péchés. Puis demandons aussi cette grâce dans la communion tout à l'heure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.